Tu es présent, Seigneur, par ton esprit et tu veux, par ta parole, nous accorder encore la révélation de Jésus-Christ et nous remplir de toi. Agis dans nos cœurs, en profondeur, et libère-nous de nos pensées que nous amenons maintenant, Seigneur, captives à l'obéissance de Christ, afin que tu puisses parler en nous. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, je vous invite à deux lectures ce matin. Nous verrons que les textes de l'Écriture aujourd'hui viennent nous interpeller de manière très directe et très pratique en nous posant une question assez simple. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour un chrétien? Alors je vais lire d'abord dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Les versets 1 à 20. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de notre ville, de votre ville, pardon, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Galates. J'ai finalement gardé que deux versets, chapitre 6, les versets 14 à 16. Quant à moi, certes, non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. La grande chose que nous avons à apprendre dans les évangiles, c'est Christ, Christ lui-même, le cœur de Christ. Et les miracles qui sont très présents dans ces textes sont à la surface du récit pour attirer l'attention sur ce que lui est. Mais Jésus a des choses particulières à communiquer à ses disciples, et ces choses ne sont pas, comme les miracles, une preuve pour le monde. Elles ont pour effet de fortifier la foi des disciples d'une manière immense. Elles ne peuvent pas être directement communiquées au monde parce que pour les recevoir, ces choses particulières, il faut déjà être avec Jésus et jouir de son affection. Ces choses, nous les voyons et elles nous rendent heureux. Hein. On voit ces disciples qui se réjouissent de ce que les démons leur sont soumis. Le monde, évidemment, ne le voit pas, ça. Ces choses sont le privilège de l'obéissance. Le croyant sent qu'il possède ce que le monde ne peut ni donner ni offrir, ce dont finalement il n'a même pas idée. Dans les trois premiers évangiles, on voit le rejet progressif de Christ, et en même temps que ce rejet, on découvre ce qui se passe dans son cœur pour ses disciples à mesure qu'il est rejeté. Chapitres 9 et 10 de Luc contiennent diverses manifestations de sa puissance et de sa grâce. Et on voit bien qu'il agit dans le monde, envers le monde, par le moyen de ses disciples. Plus il est près de la fin, et plus il en envoie. Au chapitre 10, ce sont les 70, afin que le témoignage soit rendu à tous en Israël. Il les envoie munis d'autorité, quand au fond tout était déjà fini. Car Jésus le dit, ils étaient comme des agneaux au milieu des loups. Le Messie était déjà rejeté. C'est la raison pour laquelle le témoignage devait être évident et rapide. Les disciples n'ont pas le temps de s'arrêter pour saluer en chemin. Ça nous paraît étrange hein, quand on lit ce texte. On dit quand même les disciples vont passer pour des mal élevés. C'est une question de temps. Ils apportent la paix. Mais si on rejette cette paix, elle retourne à eux. Plus la mort était près de lui, plus le Seigneur sentait l'importance de sa mission et du témoignage. Et c'est ce qui nous arrive aussi quand, pour nous, hein, quand la puissance de l'amour de Jésus est dans nos cœurs et qu'elle submerge tout finalement, qu'elle nous presse à parler de lui. Les 70 reviennent avec joie, donc nous dit le texte, parce que les démons leur sont assujettis. Et Jésus semble reconnaître le fait sans vraiment s'y arrêter, puisque lui, tout de suite, il y voit la fin de tout, Satan chassé du ciel par la puissance du Fils de l'homme. Et il en profite dans sa pédagogie pour montrer à ses disciples de quoi il veut faire profiter ceux qui le suivent. Car il ne s'agit pas seulement pour nous de la manifestation de sa puissance, mais de ce que lui seul peut nous révéler, de ce qu'il peut révéler à nos cœurs, une joie que lui seul peut donner. Et cette joie est là pour vrai sujet que nos noms sont écrits dans les cieux. Quel repos cela apporte à l'âme. Voyant le monde prêt à le rejeter, il déploie d'autant plus de puissance pour lui rendre par ses disciples témoignage de sa grâce et de ses droits. Nous apportons la paix, mais finalement, qu'on la reçoive ou non, le royaume de Christ est venu jusqu'au monde. Vos noms sont écrits dans les cieux, dit Jésus. C'est la révélation d'un peuple céleste. Alors je m'arrête sur cette expression parce que je crois que ça vaut la peine qu'on l'intègre, qu'on la digère. Dire que nos noms sont écrits dans les cieux, c'est dire notre appartenance à la famille de Dieu. C'est dire notre place dans la patrie céleste. C'est dire quelque chose de la vie éternelle dans la présence de notre Sauveur. Mais avant tout cela, dire que nos noms sont écrits dans les cieux, c'est rappeler que c'est Jésus lui-même, par le pardon acquis pour nous à la croix, qui les y a écrits. La seule légitimité à ce que nos noms soient écrits dans les cieux, c'est le sang de Christ qui nous l'accorde. Et c'est l'amour du Père qui le permet. Voilà le témoignage de Christ lui-même, ferme, solide, précieux, et auprès duquel même les miracles ne peuvent en aucune manière avoir une pareille puissance de joie. Les miracles, finalement, dit Jésus, et ce que je vous ai donné jusqu'ici ne suffisent pas. J'ai des droits bien plus élevés que celui de faire des miracles. C'est important d'en prendre conscience parce que on a tendance parfois, finalement, à s'arrêter aux miracles. Et vous me direz, c'est déjà pas mal. Hein. Mais vraiment, Jésus veut nous amener plus loin que ça. Il nous dit, je vous ai associé à toute ma gloire. Vos noms sont écrits dans les cieux. C'est une chose intime, une preuve d'affection, un conseil de grâce, parce que c'est Dieu qui les a écrits. Et c'est digne de foi, puisque le Fils de Dieu qui est dans le ciel peut nous dire ce qui y est écrit. Ce n'est pas une chose passagère, c'est une chose gravée, solidement établie, et il peut nous la communiquer. Et quoi que nous soyons sur la terre, nos noms sont déjà en la présence de Dieu. Et finalement, la connaissance de ce fait nous est déjà donnée sur la terre pour notre joie, pour nourrir cette joie et cette espérance. Alors si l'on saisit une telle source de grâce, il n'y a aucune difficulté à comprendre la gloire qui en découle. Parce que finalement, cela nous rend le ciel naturel et familier que d'y avoir nos noms écrits. Et par extension, cela nous rend le monde inconfortable, puisque ce n'est pas notre patrie. Nous voyons ici l'œuvre parfaite de Christ. Dieu veut nous introduire dans la demeure de sa sainteté et Jésus s'en est chargé. La croix nous révèle tout l'amour de Dieu et toute la perfection de l'œuvre de Christ. Et on pourrait ajouter, pour reprendre les paroles du psaume 136, « Car sa miséricorde durera toujours ». C'est la fierté dont parle Paul dans la lettre aux Galates, la fierté de la croix. Et cela doit être la nôtre également. Nos noms sont écrits là où le mal ne peut entrer, où le Christ jouit d'un repos parfait. Et évidemment, pour jouir de cette joie, il nous faut être près de Dieu. Nous serons avec Jésus dans le ciel, dans la conscience de la joie de Christ lui-même. Parce que c'est là qu'il trouve son repos et sa joie, une joie que le Père lui a préparée, une joie digne d'être sa récompense après tout son travail. Et l'œuvre que Christ accomplit à la croix nous place déjà dans ce repos. Je crois que c'est un message puissant pour nous tous qui, à divers moments de notre vie, avons terriblement besoin de saisir et de vivre la paix de Dieu, cette paix qui nous est acquise à la croix. Et même si nous le savons, il faut le redire, parce que nous avons de la peine à nous dégager de nous-mêmes pour ne rien voir que la croix et ce que Dieu en pense. C'est là que nous devons venir, à cette croix, pour trouver tout en Dieu. C'est la puissance de l'Esprit de Christ qui le réalise en nous et qui va détruire finalement, de manière progressive, ce moi qui nous empêche de regarder à cette croix, qui nous empêche de saisir ses grâces et qui nous empêche de glorifier Dieu sur la terre. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment, ça se fait progressivement, parfois sans qu'on s'en rende compte. Voilà ce qu'est un fils de paix, finalement, c'est quelqu'un qui est venu auprès du Sauveur comme un pécheur perdu et qui, en écoutant sa parole, a reçu de sa part l'assurance de la paix avec Dieu et du pardon de ses péchés. Paix et pardon fondés sur ce précieux sang qui purifie de tout mal. C'est ce que Paul rappelle aux Romains en disant « Nous sommes justifiés par son sang. Et puisque nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. » La vie chrétienne est une marche poursuivie dans la communion de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Une vie de paix et de joie, dont le Seigneur Jésus lui-même a été à tous égards la parfaite expression, une vie de relation actuelle avec le Père, dans l'attente du retour du Seigneur qui bientôt va prendre les siens auprès de lui dans la gloire. Et en disant ça, je ne suis pas en train de dire que quand on est chrétien, on est toujours heureux et qu'il n'y arrive jamais aucun malheur. Hein. C'est pas ça. C'est une paix et une joie qui sont profondes et qui dépassent finalement les événements. L'un n'empêche pas l'autre. On peut passer par des épreuves, on peut vivre de grandes tristesses et en même temps posséder la joie du Christ. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ou encore ailleurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors à tous ceux qui le suivent, le Seigneur dit, je vous laisse la paix. Combien de fois il répète ces paroles, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Et on en revient là finalement à ce qui est important. On en revient à cette difficulté que nous éprouvons à détourner nos yeux du monde et de ses soucis pour les fixer sur la croix de Christ et sur la paix qui en découle. La première chose qui caractérise la vie chrétienne, affirme l'apôtre Paul, c'est que la croix de Christ devient un sujet de se glorifier. Qu'est-ce que la croix représente pour nous ? Au milieu de ses parents et de ses amis, Jésus n'a vécu que pour Dieu. À mesure qu'il avançait dans sa carrière, on pourrait dire, dans son ministère, la croix devenait plus sombre, mais il manifestait la perfection de son obéissance d'une manière toujours plus grande, toujours plus admirable, jusqu'à ce qu'à la fin, la croix étant chose accomplie, sa parfaite obéissance soit vue aux yeux de tous. Et pour faire de la croix un gain, il faut nous souvenir qu'il y a quelque chose de plus que la question du péché pour faire de cette croix un gain. Il s'agit véritablement de liens à rompre pour pouvoir achever notre course vers le ciel. Vous savez, ces mots de Paul qui dit « je cours et je poursuis la course » et courir avec un boulet qui nous tient, eh ben, c'est nettement moins facile hein, pour ceux qui ont déjà fait de la course. Il s'agit vraiment de liens à rompre. Et c'est justement cette rupture, cette cassure, qui fait de la croix une chose douloureuse et pénible. Je crois qu'il faut le redire, il n'y a rien de facile là-dedans. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. Et ça ne va pas à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, que la vie chrétienne est une vie de joie et de paix, et pourtant aussi de choses difficiles. Mais quand je considère Jésus sur la croix, eh bien c'est tout autre chose. La croix est instrument dans la main de Dieu. Elle a tout détruit, tout dissipé. Elle a éclairci le ciel entre Dieu et moi, elle l'a ouvert même. Sa grâce, son amour, sa sainteté, sa justice, l'amour du Fils, tout brille sur la croix. Christ y est fait péché pour moi afin que je devienne justice de Dieu en lui. Et quand je considère ainsi la croix, même si je ne comprends pas tout ce qui s'y passe, j'adore, j'admire. J'y vois la perfection de tout ce que Dieu est, de tout ce qu'est le Fils de l'homme. Là, le Seigneur est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Là, je vois achever l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire. Et avant même que cette croix, cette œuvre s'applique à moi, elle a déjà toute sa perfection. Elle brille de toute la gloire de l'amour de Dieu et de Christ fait homme. Alors parfois, les chrétiens semblent vivre comme si la croix n'avait pas eu lieu, ou en tout cas qu'elle avait peu d'importance. Et j'ai envie de redire ce matin que Dieu n'ignore pas la croix si les chrétiens l'ignorent. Cette même croix de Christ qui est mon salut, ma délivrance de la loi, du péché, me montre que je n'ai aucune part avec ce monde, sinon comme un étranger béni qui le traverse. Et là aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se cache dans une grotte en attendant la fin. On peut avoir des occupations tout à fait convenables et adaptées, mais ça n'est pas la même chose et ce n'est pas ce qu'on peut appeler une chose du monde. Le Seigneur a vécu ici-bas, vous voyez, ce n'est pas caché. Il est mort ici-bas, il est ressuscité ici. Il a mangé, il a bu dans ce monde et pour autant, il n'a jamais été de ce monde. Et finalement, il doit en être de même du chrétien. Un chrétien devrait être un moyen permanent de bénédiction dans ce monde. Alors ça pose toujours l'éternelle question de comment, sous quel caractère, est-ce qu'on peut être une bénédiction ? Je crois qu'il s'agit surtout de rendre témoignage à Christ, rendre témoignage à notre Sauveur, en faisant comme Christ qui n'a jamais cherché son intérêt particulier, qui faisait le bien toujours, mais selon la volonté du Père, qui agissait toujours pour des motifs qui n'étaient pas de ce monde, mais qui étaient du ciel. Et je crois que c'est le plus difficile parfois, arriver à regarder pour quels motifs on fait les choses et les regarder objectivement. Voilà Jésus qui savait que le monde était ennemi de Dieu et que pourtant l'amour de Dieu l'avait envoyé dans ce monde pour leur faire du bien. Voilà comment était Christ et voilà comment devrait être le chrétien. Puisque l'affaire du chrétien, c'est d'être la lettre de Christ, c'est d'être un courrier. Et j'en parle souvent parce que je trouve cette expression vraiment incroyable. Voilà, rien qu'en nous voyant, les gens lisent quelque chose de ce qu'est Christ. Alors évidemment, ça pose une grosse responsabilité hein, sur ce qu'on est, sur ce qu'on laisse voir de nous. Et quelque part, ça nous dit que le fil directeur, le test, quant à tout ce qui se présente devant le chrétien, devrait être cette question finalement, est-ce que faire ceci ou cela, c'est agir comme une lettre de Christ ? Alors j'en reviens à la question qui nous préoccupe depuis le début et je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qui est important pour le chrétien ? Je crois que l'Écriture nous répond de manière assez claire ce matin. Par la croix de Christ, nous sommes une nouvelle créature et nos noms sont écrits dans les cieux. Voilà ce qui est important. Voilà la nouvelle prodigieuse que Dieu nous rappelle aujourd'hui. Et il est important de le redire, parce que même si nos têtes l'ont compris, je crois qu'il est urgent que nos cœurs le reçoivent et que nous le vivions réellement. Parce que ça change quelque chose à notre façon de vivre. Nous sommes une nouvelle créature et nos noms sont écrits dans les cieux. Voilà un sujet de joie, une source de paix, une occasion de glorifier Dieu et même de nous glorifier de ses bénédictions. C'est ce à quoi Paul invite. C'est tout ce qui importe et nos vies doivent en témoigner. Que le Seigneur, par le travail de son esprit en nous, nous aide à nous saisir de ces vérités et que cela transforme notre manière de vivre pour la gloire de son nom, toujours son honneur et sa gloire. Amen.